Radio Campus, il est 9h.
Jusqu'au 25 mai 2026, le Centre historique minier de Leeuwarden présente l'exposition Au charbon pour un design post-carbone. Une exposition proposée en collaboration avec le Centre d'innovation et de design du Grand Ornu en Belgique. L'exposition Au charbon pour un design post-carbone réunit plus de 40 œuvres de designers, architectes et plasticiens du monde entier. Ces artistes se sont emparés du sujet du charbon sous toutes ses formes pour exprimer, à travers le design, leur vision du monde de l'après-carbone. Luc Pirala, directeur conservateur du Centre historique minier de Leeuwarden.
Cette exposition, elle a d'abord été présentée au Centre de l'innovation et du design au Grand Ornu, qui est un grand site du bassin minier UNESCO côté wallon, hein, côté belge. En fait, avant même mon arrivée ici, je trouvais que c'était une proposition qui serait vraiment intéressante de présenter ici à Leeuwarden.
En quoi ?
Ben justement parce que c'était une exposition qui était une exposition de design et donc qui nous permettait d'avoir un pas de côté par rapport à notre programmation culturelle habituelle, plus historique, et parce qu'elle était très engagée. C'est-à-dire que, au fond, cette exposition qui s'appelle Au charbon, alors Au charbon, ça peut tout dire et rien dire, mais le sous-titre, c'est pour un design post-carbone. Et vraiment, l'idée de l'exposition que les commissaires ont vraiment essayé de porter jusqu'au bout, c'est de voir comment des artistes d'horizons très différents, de pratiques artistiques très différentes, au fond, ont essayé, grâce à, quelque part, la question du matériau charbon sous toutes ses formes, de quelque part repenser les grands problèmes liés au charbon, qui est quand même cette question de l'extractivisme et évidemment les conséquences que ça a aujourd'hui dans le climat. Donc le Centre historique minier aujourd'hui est engagé dans une démarche de décarbonation, de sobriété, et ça nous paraissait important d'avoir une vraie exposition qui traite, j'allais dire, de front ces problématiques avec une proposition, moi, que je trouve magnifique et que je conseille à tous les amoureux du Centre historique minier.
Le fait que ce soit des artistes qui s'emparent de ça sur un domaine, le design, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à aborder pour le grand public. C'est pas quelque chose qui vous a effrayé ?
Non, je pense que c'était évidemment un enjeu pour nous de proposer quelque chose de très exigeant en termes de design. Et pour ça, on n'avait aucun doute que les collègues, l'équipe du Centre de l'innovation et du design du Grand Ornu ferait une proposition au plus haut niveau. Mais tout l'enjeu a été effectivement d'adapter cette proposition à la fois aux salles, mais aussi au Centre historique minier, à son vocabulaire, à sa manière de faire et évidemment à son visiteur. La réussite du projet pour moi, c'est d'avoir été capable de faire quelque chose de très beau, de vraiment très esthétique, mais en même temps, en termes de discours, de très accessible, de très fondé, et au fond, qui touche tout le monde, quoi. Donc, sans avoir une connaissance vraiment très pointue sur le design. J'invite les gens à venir tenter l'expérience. Il n'y a pas besoin de s'y connaître très profondément en design. Il faut se laisser porter sur les propositions qui sont faites par les artistes, qui, à la fois, vous toucheront esthétiquement, j'en suis sûr, mais vous feront éminemment réfléchir.
Le but, c'est de comprendre, d'apprendre ou de s'émerveiller, ou les trois en même temps, mon capitaine.
Tout. On n'a pas à faire de choix, je pense, dans les musées. Je pense qu'on a des publics qui sont en recherche de toutes ces choses-là à la fois. Je pense que venir dans un musée, c'est à la fois apprendre des choses, voir des choses qu'on ne voit pas au quotidien, et en même temps, évidemment, toujours de se poser des questions et d'en ressortir un peu différemment de comment on y est rentré. Oui.
Ici, sur ce territoire, on est les premiers concernés pour comprendre que c'est compliqué que de sortir du charbon parce que ça a des conséquences sociales, économiques, environnementales.
Bien sûr. Oui, mais en même temps, on est dans un territoire qui, justement, est un territoire qui a commencé déjà une transformation. Et en fait, on est un territoire de renouveau, de résilience et qui est aussi aujourd'hui en train de regarder vers l'avant et qui, en se basant sur son héritage charbonnier, est capable d'inventer de nouvelles propositions pour l'avenir. Donc en fait, c'est le lieu pour avoir ce type d'exposition et ce type de discours.
On entend les enfants passer. Ouais. C'est important que d'avoir cette jeunesse dans le centre historique minier. Et on est ici dans un lieu
vivant. On parle de, forcément du post-carbone, du post-charbon. Si nous, on a fait une transition énergétique avec un mix nucléaire, c'est que quelque part, on extrait également de l'uranium. Donc, on n'est pas entièrement sorti de ça, sauf que c'est plus chez nous.
Bah complètement, mais c'est un des enjeux aujourd'hui sur lesquels on est confronté. Alors ici, on sort un petit peu de la problématique de l'exposition, mais on va être soumis à deux impératifs qui vont être contradictoires d'un point de vue global. C'est-à-dire, d'une part, essayer d'être souverain et de pouvoir, au niveau européen déjà, être en capacité d'avoir une autonomie sur un certain nombre de matériaux et de matières premières stratégiques. Et de l'autre part, je pense qu'on ne doit pas, mais ça c'est un point de vue personnel, renier évidemment des exigences sociales, environnementales et autres. Donc ça c'est tout le rôle du Centre historique minier à l'avenir, d'être ce lieu de discussion, de débat, parce qu'il y en faut. Voilà, c'est normal qu'on ne soit pas tous d'accord sur ces questions-là. Nous, le Centre historique minier, on est engagé pour quelque chose d'autre, mais après tout, tout le monde a sa place ici, les énergéticiens aussi, parce que il va falloir qu'on trouve des compromis pour pouvoir avancer tous ensemble. Et je pense que le Centre historique minier est le lieu vraiment dans la région pour ça.
Alors c'est vrai que si j'aborde la question sur le côté énergétique, on sort du cadre de cette exposition. Néanmoins, on parle quand même d'extraction dans cette exposition avec un film fort à la fin proposé que j'invite tous nos auditeurs à venir voir parce que c'est la réalité, c'est en Europe, mais ça nous concerne également directement si on parle des terres rares, du cobalt, de l'uranium.
Bah tout à fait. Le problème, il n'est pas que chez les autres, hein. Et de toute façon, évidemment, cette exposition, elle invite aussi à avoir, une réflexion personnelle par rapport aussi à nos propres impacts individuels sur l'environnement aussi. Mais je tiens quand même à dire que le sujet, il n'est pas de culpabiliser les gens, mais je pense qu'il est quand même important. Et en ça, je le répète, cette exposition, elle est là pour ça. Elle est là pour, essayer de penser un petit peu différemment. Et les artistes sont là pour ça. Et finalement, à travers les propositions que l'on montre, on invite comme ça, quelque part, gentiment, mais résolument, à essayer de penser autrement, et penser autrement, et faire autrement. C'est tout l'enjeu du projet du Centre historique minier, d'être véritablement un musée qui permet de penser autrement, et qui est vraiment un outil à la fois d'aménagement, mais aussi un outil de transformation du territoire et de ses usagers visiteurs. C'est vraiment toute l'ambition.
L'exposition au charbon pour un design post-carbone est donc visible au Centre historique minier de Lowarde dans le Nord jusqu'au 25 mai 2026. Le commissariat de l'exposition est assuré par Giovanna Massoni et Amandine David. Giovanna Massoni.
Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à sous-évaluer les impacts du progrès. C'est le mettre un peu en question par rapport à ce que nous... La nature nous rend de tout ça. On sait qu'on a mis en danger la nature, mais la nature est tout à fait résiliente. L'homme, malgré tout, ne l'est pas du tout. Donc c'est ça qui est inquiétant. C'est la problématique sociale, géopolitique et écologique que le charbon porte avec soi et qui est, disons, réinterprétée de manière positive et encourageante, je trouve, par les designers, les artistes. Aussi, Joanie Lemercier qui nous offre un portrait impressionnant de cette tragédie, l'implication tragique de la construction de cette mine à ciel ouvert en Allemagne, termine avec un acte qui est la protestation, la désobéissance, l'action. Et l'action est créativité. L'action est créative.
Est-ce qu'on peut faire une œuvre de ces actions politiques ?
Exactement. Mais c'est ça.
Faire des œuvres avec ça ?
Pour moi, c'est vraiment s'immerger dans une expérience esthétique qui amène énormément de messages et de sollicitations politiques qui nous ouvrent les yeux, qui nous font pleurer, qui nous font activer quelque chose. Il faut réagir. La résistance... La résistance, c'est art, c'est l'art. Et le design, c'est une forme qui s'approche à la création artistique, mais qui travaille sur la pratique, sur la solution, sur l'expérimentation qui, à petite échelle. Et le souhait, c'est que cette vision ouverte, respectueuse, éthique que le design désormais, le design bien sûr de recherche, a désormais prouvé en plusieurs projets, devienne effectivement le fil rouge de ce changement qui doit vraiment prendre place maintenant et s'activer, activer.
Est-ce que chez les designers, on faisait encore, peut-être il y a 30 ans, 40 ans, des choses qu'on ne ferait plus aujourd'hui au regard de leur impact environnemental?
Exactement. Certainement, on est beaucoup plus attentif effectivement à l'impact environnemental et l'utilité. Donc, et surtout, je dirais, à la question de comment on consomme, pourquoi on a besoin de ça. On apprend dans les écoles désormais, la première question à se poser, c'est pas comment je l'utilise, quelle forme je lui donne, mais ça sert vraiment.
C'est-à-dire que le futile n'existe plus, ne doit plus exister.
Ça peut continuer à exister, mais au niveau d'une échelle industrielle, la question se pose de manière un peu différente. Donc, je peux créer quelque chose de précaire, de bricolé futile, mais au niveau industriel, l'impact devient tellement important qu'il vaut mieux se poser cette question. Et puis, c'est une question aussi de posture, hein. C'est une attitude. Est-ce qu'on doit vraiment continuer à produire et à surproduire pour générer des déchets qui ne sont pas récupérables non plus, hein, parce que maintenant on se pose la question avec les batteries au lithium, etc., à propos d'autres types de mines, hein, parce que là c'est, le discours se reproduit dans d'autres, avec d'autres matériaux, mais on est en train quand même de pérenniser les mêmes erreurs ailleurs. Ça, c'est une vision un peu négative. Ma vision positive, c'est, je suis dans la culture et le design ou les arts plastiques parce que je crois dans cette énergie que la culture peut infuser et pour sauver, nous sauver de quelque chose.
L'exposition au charbon pour un design post-carbone est visible au Centre historique minier de Loarde jusqu'au 25 mai 2026. Pour plus d'informations, rendez-vous sur chm-loarde.com. Interview Hervé Dujardin pour Radio Scarp Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
C'est la rara, c'est la diodio, c'est Radio Campus.
Construisez vos piscines en fermant nos usines. Mais putain, faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez. Manipulez-nous mieux.
106,6 FM, www.campuslille.com.
Servez-vous dans nos frigos, nos impôts c'est déjà cadeau. Mais faites-nous croire qu'il y a des martiens, ça fera moins peur que croire.
Ils ne savent pas les heures, les voitures, les camions. Ne sentent pas le vent, ne savent pas le temps. Et ils dévalent sans voir les passants, les pieds sur les pédales, dans la rue qui descend. Ce sont des équilibristes et des mécaniciens. Ces tout petits cyclistes, ces tout petits gamins. Ils ont les coudes griffés, mais ils n'ont rien senti. Dévorent la journée avec grand appétit. Descendent en dansant et remontent en danseuse. Trimballent leurs 6 ans et leurs mines rieuses. Ce sont des équilibristes et des mécaniciens. C'est tout petit, cycliste, c'est tout petit, gamin. Les genoux cabossés, un tout petit garçon lève sans frissonner les deux mains du guidon. Et il dévale sous les yeux des passants, laisse un peu de sandales sur le pavé brûlant. ce sont des équilibristes et des mécaniciens. C'est tout petit, cycliste, c'est tout petit, gamin. Et quelques mains cambouis tentent une réparation. Pour terminer, s'essuie-là sur les pantalons. Et il répare la chaîne déraillée. Il règle l'histoire avec autorité. Ce sont des équilibristes et des mécaniciens. C'est tout, tout, tout petit cycliste. C'est tout petit gamin. Les genoux s'abîmaient, les cheveux décoiffés, et rouges lors de joues quand roule l'heure de roue. Ils dévalent sans voir les passants, les pieds sur les pédales dans la rue qui descend. Et ils dévalent sans voir les passants, les pieds sur les pédales dans la rue qui descend. Ce sont des équilibristes et des mécaniciens. C'est tout, tout, tout petit cycliste. C'est tout petit gamin. Des équilibristes et des mécaniciens. C'est tout petit cycliste. C'est tout petit gamin.
Road. La Villa Cavrois à Croix a fêté ses 10 ans d'ouverture au public. Une occasion de m'y rendre pour vous faire découvrir ce lieu témoignant de l'époque révolue du textile florissant aux environs de Roubaix. Voilà, aujourd'hui jour de fête à la Villa Cavrois à Croix. Bonjour.
Bonjour, je suis Karine Guimbard, l'administratrice de la Villa. Et nous fêtons aujourd'hui les 10 ans d'ouverture du monument. Nous avons invité différents artistes à faire la fête avec nous et avec nos nombreux visiteurs.
Dans ce lieu qui est très symbolique d'une époque, peut-être qu'on pourrait raconter un peu son histoire.
Alors cette architecture a été édifiée par Robert Malestevens, l'architecte, en 1932 pour le couple Cavrois des industriels du textile. Et ce riche couple des Hauts-de-France, en fait, a passé commande de cette architecture emblématique à Robert Malestevens. Il voulait vraiment s'inscrire dans la modernité de l'époque.
Alors c'est vrai que cette modernité, elle a traversé le temps. Aujourd'hui, elle a été rénovée d'une certaine manière. Donc il y a derrière beaucoup d'appui des monuments historiques, j'imagine.
Alors cette villa, depuis plus de 10 ans, donc 10 ans d'ouverture, mais à peu près plus d'une dizaine d'années avant de travaux. Donc ce sont de nombreux corps de métier, l'architecte en chef, les entreprises qui ont aidé à la remise en état de cet édifice dans le cadre de sa livraison 1932.
Donc cet édifice a servi de lieu d'habitation, de bureau aussi. Qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce grand, on va dire c'est presque un immeuble, hein ?
C'est une architecture domestique pour une famille, mais Monsieur Cavrois y recevait aussi ses nombreux clients.
Voilà, donc un lieu aussi symbolique d'une époque où l'industrie était florissante.
Oui, tout à fait. C'est vraiment, on était première moitié du XXe siècle. Effectivement, l'industrie textile du nord des Hauts-de-France aujourd'hui, toute la région était, on avait ce textile était extrêmement florissant. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont passé commande pour cette grande villa.
Donc la Villa Cavrois, à un moment donné, était un peu délaissée, sinon abandonnée. Depuis, ça s'est, on va dire, remis en forme pour que le public participe aussi à ce monument patrimonial.
Oui, l'idée, c'est vraiment de faire partager au plus grand nombre cette passion pour l'architecture et puis cette vie moderne que proposait l'architecte à la famille Cavrois. Effectivement, la villa a été habitée par la famille jusqu'en 1986 et ensuite, elle a été vendue et puis elle s'est délabrée, elle a été laissée ouverte par des promoteurs qui l'avaient acquise et qui espéraient lotir et faire des programmes. Quand ils ont vu que le bâtiment était classé et qu'ils ne pourraient pas, ils ont laissé ouvert le bâtiment qui a été squatté. Elle a été extrêmement délabrée quand l'État a pu l'acquérir ensuite et lancer son programme de restauration.
J'imagine que ça a dû coûter assez cher, hein, et que donc l'intérêt maintenant, c'est que le public se l'approprie.
Oui, alors ce qui nous fait extrêmement plaisir aujourd'hui, 10 ans après son ouverture, c'est que les gens de la région viennent et reviennent et présentent à leurs amis cette architecture comme étant la leur, enfin en tout cas faisant partie de leur mémoire, de leur patrimoine. Donc ça, c'est une grande réussite pour nous. Et puis on essaye de l'ouvrir à tous les publics, à l'international, aux publics qui ont peut-être moins l'habitude de visiter aussi ces monuments.
Est-ce que cet immeuble-là a des correspondances ailleurs en France, sinon dans le monde ?
Alors, il y a de très belles architectures iconiques du XXe siècle, mais ici, on est sur plus de 2400 mètres carrés de plancher. On avait vraiment une appellation de château moderne. Donc, cette surface est extrêmement importante et la qualité très exigeante de la restauration en font quand même une œuvre d'exception, tant en France qu'à l'international.
Donc il y a cet immeuble et pas loin de là, il y a un grand jardin qui est classé aussi. On peut peut-être en dire un mot.
Alors vous parlez peut-être du jardin Malestevens. Alors c'est un jardin qui a été créé en l'honneur de Malestevens par les services de la ville de Croix, de manière à avoir un espace vert très aménagé à quelques encablures de la villa.
Donc on peut dire que ça fait un ensemble où il est intéressant de venir, même se déplacer spécialement.
Alors oui, on peut tout à fait venir à la villa, profiter de son parc, et on a de nombreux jardins. Vous parliez du jardin Malet Stevens, mais aussi le parc Barbieux, qui est à quelques encablures et qui est magnifique également.
Donc cette animation, comme aujourd'hui, pour vous, ce sera tous les 10 ans ou vous envisagez chaque année un gros événement à la villa Cavrois?
Alors, pour l'instant, on ne s'est pas projeté, mais c'est vrai, quand on voit l'appétence, le plaisir, le sourire, les yeux qui pétillent aujourd'hui, on a quand même très envie de ne pas attendre 10 ans pour renouveler.
Voilà, donc vous devez être assez fier d'œuvrer à la perpétuation de cet endroit et d'en faire un lieu accueillant.
Oui, bah, je partage avec toute mon équipe qui s'est investie. Et c'est vrai que quand on voit le sourire, les gens qui s'intéressent, qui nous posent des questions, qui partagent, on est vraiment ravis.
La villa Cavrois a été abandonnée durant des années et les travaux de remise en état des lieux, entrepris par l'État au travers des monuments nationaux, ont été conséquents.
Bonjour, je suis Charline Guibert, responsable du pôle de la communication digitale au Centre des Monuments Nationaux.
Donc ce lieu, Villa Cavrois, fait partie du patrimoine, je ne vais pas dire mondial de l'humanité, quoique, mais des monuments historiques.
Tout à fait. En effet, il a rejoint le réseau de nos 110 monuments nationaux que nous gérons au sein du réseau, au Centre des Monuments Nationaux. Et en effet, il fait partie de la petite dizaine de villas remarquables que nous valorisons au quotidien. Et c'est un des joyaux des Hauts-de-France. Et ici, moi, en plus, étant sensible aux images, c'est un lieu très, très médiagénique où on peut sans cesse faire des photos, le redécouvrir, capter la lumière. Donc moi, sur ma partie communication digitale, ici, c'est un régal des yeux et aussi des images qu'on glane. Et en tout cas, comme monument accompagné, il est aussi très agréable par ces multiples images qu'on peut valoriser régulièrement. Et le nombre de sujets pour faire la promotion de ce monument est incroyable. Il y en a plein. Il y a l'entrée des objets, du mobilier, de l'extérieur, des points de vue, de comment on pouvait vivre au début du XXe siècle, c'était quoi être moderniste. Mais aussi, il y a toute cette question, et le cadre des 10 ans permet de questionner ça, c'est comment on restaure, comment on préserve, comment, par tout un champ de recherche, on essaie de restituer, reconstituer, ou essayer de retrouver quelque chose d'originel, même si tout ne sera jamais comme avant. Donc ce monument questionne aussi beaucoup ça, et les 10 ans permettent aussi, nous, sur nos réseaux sociaux, les sites internet, de raconter cette histoire, puisqu'aujourd'hui, tout paraît magnifique, mais tout a été aussi... on part de rien ou de quelque chose d'extrêmement abîmé et délabré, et voilà. Mais aujourd'hui, on s'émerveille. C'est une journée pour s'émerveiller.
La région de France est très riche en musées. Ce lieu, je ne sais pas si on peut le considérer comme un musée, quoique.
Il peut être considéré comme un musée parce que je trouve qu'il raconte beaucoup de choses aussi sur une œuvre d'art totale à la fin des années 20, au début des années 30. Parce qu'à la fois, aujourd'hui, par la collection et le fait de remeubler, on le remeuble, ce ne sont pas les meubles originaux, mais quelque part, c'est un ensemble. Donc on peut presque le considérer comme le musée d'une époque ou le musée d'une œuvre. Peut-être même un manifeste de Malet Stevens où il a eu une sorte en 4 ans ou 3 ans, presque 4 ans, de possibilité d'aller très très loin pour tout concevoir, quoi. Du moindre détail, de la visserie aux ouvertures, au choix des sols, des choses de plus du design. Donc c'est vrai que c'est presque un musée de cette époque et de cet architecte incroyable.
Alors c'est vrai que dans ce secteur qui fut habité par des riches, on m'a dit qu'il y en avait encore, qui se cachaient. Il y a de beaux endroits comme on va dire le Grand Parc Barbieux. On a aussi le Parc Malet Stevens qui est juste à côté. Ça fait un ensemble cohérent.
Alors oui, ensemble cohérent. Alors moi, je ne connais pas, peut-être encore moins que vous quand même, tous ces lieux à les fréquenter quotidiennement. Mais en effet, il y a un ensemble cohérent. Moi-même, quand je suis ici, je pense à d'autres architectures de la métropole. Par exemple, j'ai beaucoup fréquenté le LAM. C'est loin et on est très loin, mais il y a quand même ce rapport aussi à une brique, à des formes qu'on peut retrouver. Donc je suis... voilà, dans ce que je connais de cette région, de cette zone du Nord, il y a plein de choses en écho qu'on arrive à relier, même à des époques très très diverses, 100 ans après. Donc je trouve qu'il y a un vocabulaire, oui, de formes d'architecture du XXe siècle dans cette région qui est incroyable aussi, quoi. C'est vrai qu'il y a une architecture du XXe et début XXIe assez incroyable dans cette métropole.
Est-ce que vous ressentez l'effet tourisme de ces lieux magiques ?
On voit qu'il y a quand même des visiteurs parfois qui avaient mis sur leur liste de venir à la Villa Cavrois un jour, et ça fait comme partie d'un voyage, hein, une opportunité, ou à un moment ils sont dans les Hauts-de-France parce qu'ils vivent parfois loin, près de Lille. En fait, dans la liste, il y avait venir à la Villa Cavrois parce qu'ils ont vu beaucoup d'images, parce que parfois ils sont sensibles à l'architecture et ça fait partie de leur wish list, comme on dit aujourd'hui, de visites à faire, et un jour ils finissent par venir. Tout à l'heure, dans la journée, on a parlé à des gens qui, parfois, il y en a un qui venait de Lyon, ça faisait 15 ans, 20 ans, il disait qu'il devait venir, et il a saisi l'opportunité de venir travailler dans le Nord pour une réunion et de rester, et il savait qu'il allait venir la voir. Donc, c'est un lieu il y a beaucoup d'images qui circulent, c'est pas que la communication digitale, c'est aussi les médias, la presse. Et je pense qu'à un moment, ça inscrit quelque chose comme un endroit qu'on veut absolument voir en vrai, parce que déjà, par les photos, il nous marque, il nous intrigue, il nous séduit, quoi. Donc, je pense qu'il y a des visiteurs, et puis il y en a, ils reviennent, ils sont venus une fois, ils veulent revenir, et voilà. Donc, il y a aussi des gens qui viennent d'assez loin pour le voir, et même des étrangers, pas mal d'étrangers d'ailleurs, des Belges, des Allemands, de plus en plus apparemment d'Espagnols et d'Italiens, si on en croit les chiffres. Donc, voilà, ils donnent envie et il suscite de l'intérêt, mais même pour des gens qui viennent de plus loin et qui ne vont pas que visiter le Vieux Lille ou Notre-Dame de Paris s'ils passent à Paris. Donc il y a aussi un peu ce champ-là qui intrigue et intéresse, quoi.
Le domaine de la Villa Cavrois à Croix, près de Roubaix, est donc aujourd'hui ouvert au public et vaut la peine d'être visité. Une belle façon d'entrer dans notre patrimoine régional et national. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus Lille.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Liberté, égalité, solidarité. Le 1er juillet, les soulèvements associatifs remettent la République à l'endroit. Cette date marque les 124 ans de la loi de 1901, fondement de la liberté d'association. Mais en 2025, faire toujours plus avec toujours moins, ça ne tient plus. C'est le cri d'alerte de celles et ceux qui font vivre la République au quotidien. Alors le 1er juillet, rendez-vous dans la rue, sur les ondes, pour dire que si les associations tombent, c'est la démocratie qui vacille. Pas de société solidaire sans association citoyenne. Partout en France et sur association-citoyenne.net, faisons entendre les voix du monde associatif. Une société sans asso, c'est une société en morceaux. L'intelligence associative n'est pas artificielle, c'est elle qui nous sauvera. Les radios associatives réunies au sein des locales s'associent à cette initiative. The old days were no fun. I'm not sorry that they're gone. I don't miss them. And I won't miss them. And it was always wrong. Everything I've ever done from the beginning to the ending. And things never got better. It seems like forever since we had fun. Or maybe I never had fun. Joke's on me. The joke's on me. Woo-hoo. Woo-hoo. And you were always lame. A headache and a pain. I don't miss you. And I won't miss you. I tried not to get bitter. But I was such a quitter. Yeah, I had dreams.
to keep on lying, keep denying that there's nothing good in me. I know I'm worthless, I know you heard this. Oh, my life's a joke and the joke's on me. The joke's on me. Well, there never were any good old days. Looking back, I'm still amazed how everything went wrong in every way. There were no good old days. Well, there never were any good old days. Looking back, I'm still amazed that everything went wrong in every way. There were no good old days. Well, there never were any good old days. Looking back, I'm still amazed that everything went wrong in every way. There were no good old days. And this whole time, I've been around. 1 minute up and 100 down. Uh-oh. Keep on laughing, keep attacking. I'll show you what it means. Joke and the joke's on me.
Dans la pénombre de Châteauneuf, on était sûr de ne pas croiser les keufs. Mais non, symbolé n'est pas mort. Chanté Pilou à coups de renfort. On terminait, on ne sait pas comment. On flambait sans aucun argent. On vivait la folie de nos 20 ans. Au bord de l'étang de Servent. Tous les verres de gris, puis ils trinquaient avec les sorcières qui leur faisaient remuer ciel et terre. Les gars partaient à la Gaulivelle pour voir si la vie était plus belle. Les filles rejoignaient leurs amants au bord de l'étang de Servent. De la Sioule, on croisait parfois les parigots. Quand ils voulaient des grenouilles, on leur donnait des crapauds. On leur faisait boire de l'hydromel, puis ils repartaient en criant. On a vu le monstre du Loch Ness au bord de l'étang de Servent.
Thank you. La Bassure en fête, événement dédié à la nature et à l'environnement à Achicourt. Cette année, le thème, c'était « De la terre à l'assiette ». Un reportage réalisé sur place. On entendra notamment des interviews d'intervenants qui présentent leur stand, entre autres l'ADAV, l'Association du droit au vélo, une conteuse pour petits et grands, Marion Caïré, Anne-Ophélie Louis qui proposait un stand balade et écriture sur la nature, et tout cela agrémenté par une illustration sonore de l'harmonie d'Achicourt. Ah, c'est pour la photo.
Moi, on représente l'ADAV ici sur Achicourt. En fait, l'ADAV, c'est la grosse association régionale avec, je pense qu'on est à 3000 adhérents. Et donc, il y a différentes antennes. Il y a une antenne à Arras et puis il y a une antenne aussi à Achicourt. Donc, moi, je suis correspondant local sur Achicourt. Et donc là, on a un stand et on a co-animé une balade vélo. On a eu une trentaine de personnes. Avec deux parcours, un parcours de 10 km et un parcours plus réduit. Et en accompagnant, on était 8 personnes, donc ce qui était sympathique.
Sur votre stand, il y a plein de choses. Hein. D'abord, j'ai vu le panneau là, la sécurité pour les enfants. Comment faire pour que les enfants ne se plantent pas ? Message aux parents, il est important que vous accompagniez vos enfants à vélo à leur début pour leur apprendre les bons comportements sur la route.
Il y a plusieurs biais. Alors nous, on fait de la formation dans différentes actions sur Arras et sur la communauté urbaine avec des panneaux pédagogiques qui sont, je pense, relativement bien faits. Après, il y a aussi les actions des communes. Je sais que sur Achicourt, le service sport de la commune se met en lien avec les écoles. Ils font beaucoup d'animations sur le thème de la sécurité vélo. En particulier à Achicourt, on a ce qu'on appelle un petit city, enfin un petit parcours vélo sur Macadam avec plein de panneaux qui est du côté du pont Gondry. Il y en a deux autres, je crois, sur la communauté urbaine. Et ça aussi, c'est vraiment efficace pour apprendre les bons comportements aux enfants.
Est-ce que vous avez eu du monde justement qui est passé devant votre stand et qu'est-ce qu'ils vous demandent ? C'est quoi les questions qu'ils vous posent, etc.
Les gens sont intéressés, déjà les pratiquants du vélo, hein, de tout âge. Après, les gens sont intéressés aussi par les ateliers vélo de la DAV. Il y en a deux sur la communauté urbaine, un à Léon-Blum, à Arras, et un à Saint-Laurent-Blangy. Donc les gens sont intéressés soit parce que éventuellement c'est des réparations, des petites réparations où il leur manque des pièces, ou alors pour des dons, parce qu'ils peuvent aussi donner les vélos et puis après ils sont restaurés par l'atelier et puis après revendus au profit de l'association ou donnés. Par exemple, aujourd'hui, on avait à la vente proposé 8 vélos, des vélos enfants. Ceux qui ne seront pas vendus, eh bien, par accord, ils seront donnés par l'association à la commune d'Achicourt, éventuellement pour les écoles, pour des enfants qui n'auraient pas de vélo, pour certaines activités communes.
Alors, je vois qu'il y a une affiche aussi éclaireur. Les éclaireurs du Tour 2025, vous pouvez m'expliquer un petit peu ?
Alors ça, c'est passionnant. Ça, c'est... L'ADAV, en fait, a été contactée par l'EHPAD d'Achicourt parce que l'EHPAD d'Achicourt, en association avec d'autres EHPAD du Pas-de-Calais, vont faire des actions liées au vélo. Ça semble surprenant parce que EHPAD vélo, ça semble pas compatible, mais oui. Donc, en fait, ça va être des actions qui, surtout sur le mois de juin, mais ça va durer jusqu'à octobre, je crois. Donc, il y aura quoi ? En particulier, ça va pédaler. Dans les EHPAD, ça va pédaler. Donc, il y a à la fois certains résidents EHPAD d'Achicourt qui sont encore en capacité, qui vont pédaler. Et les kilomètres, pédaler sur des vélos d'appartement, enfin des vélos, voilà. Et les kilomètres vont être comptabilisés. Et puis, les familles pourront aussi participer pour faire monter le compteur. Et même des habitants, nous, on va essayer de s'y associer, y aller pour essayer de faire monter le compteur. Et donc, ce sont les référents sportifs dans les EHPAD qui vont faire différentes actions. Il y a également une sortie prévue. Alors, ça semble étonnant, mais oui. L'EHPAD d'Achicourt va louer quelques vélos adaptés, deux ou trois vélos adaptés. Et il y aura le projet, ça serait qu'il y ait une sortie avec des résidents capables de le faire, accompagnés par des personnes valides entre guillemets, et il y aura peut-être une sortie en juin dans ce cadre-là, en partenariat en plus avec avec des jeunes enfants. Donc en tout cas il y a des projets intéressants avec quelques actions qui se prolongeront après le reste de l'année.
Bon, c'est idiot l'histoire du solo parce que je suis toute seule. Je suis en faire qu'une, mais j'essaie de la faire plus vite. Prêt?
Allez, plus vite.
Proposer un concert, hein, c'est ça, pour les enfants. Il y en avait plein là, il y a 5 minutes.
C'est un spectacle de petites histoires et de comptines pour les tout petits et leurs familles. Alors, je suis Marion Cailleret, je suis conteuse depuis presque 30 ans maintenant, et je raconte beaucoup pour les tout petits. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un public mixte parce qu'il y a à la fois les bébés et il y a les parents, donc j'essaye d'avoir un truc à double sens en fait pour que les parents ne s'ennuient pas.
Alors donc il y a des contes et de la musique.
Tout à fait. Il y a donc des petites histoires qui sont des histoires, certaines sont traditionnelles, d'autres sont les miennes. Et il y a un peu de harpe et un peu d'accordéon.
Et je vois qu'il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes que vous avez créées vous-même ou...
Oui, tout à fait. J'aime bien travailler avec des petits décors parce que ça m'amuse et que ça, je trouve que ça amène des choses au récit, ça amène une illustration en fait que je trouve intéressante. J'aime bien la manipulation aussi, ça m'amuse beaucoup.
Alors moi, Sophélie, le punch et la plume, je propose un nature-écriture donc dans une nature donnée qu'on va choisir en groupe avec un démarrage à la fête de la Bassure. Un court moment, c'est une heure, où je fais écrire ou pas, c'est une option, dans la nature, au cœur de la nature, avec la nature, pour la nature, parce que l'écriture et la nature, ce sont deux sources qui peuvent se compléter pour booster notre créativité, nous oxygéner et nous faire voir les choses autrement.
Donc, voilà. J'imagine que tu as eu du public.
Ça va arriver.
Est-ce que c'est plutôt des enfants? Est-ce que c'est plutôt des adultes ou...
Eh bien, c'est tout public, même si on ne sait pas écrire, comme dit Cocteau. L'écriture, c'est du dessin noué. Si on a envie, on s'exprime comme on peut. C'est un langage, donc on se fait aider. Donc, si on a 3 ans... par sa mère, où on influence sa mère sur une idée, parce que les enfants sont très réceptifs finalement. Donc voilà, l'animateur de savoir réguler tout ça. Je suis plutôt dans cet esprit ouvert.
C'était un reportage réalisé lors de la Bassure en fête d'Achicourt sur le thème de la terre à l'assiette et qui s'est déroulé le 29 mai. Ce sujet a été réalisé par Boris Guyot de Radio PFM.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Radio Campus 106,6.
turn to the man on a tape rope. Watch my back now, all that war's broke. The enemies on the rooftop aiming with the focus of a cyber scope. Laying down in the man fields, I feel there's no hope, man, I might just choke. But they're gonna carry on through the Hell's Gate trap, stay sane and the mind is broke. Take it back to the beginning of the point source, like a Jedi in the desert with a light force. To the moment that it all went sideways, and it kicked up big time, my Star Wars battle for the cause. The guns are blazing, people taking lives, run for safety, there's nowhere to hide. You can't deny, fight for your life, boom! Then I woke up in a bed from a coma. This a dream and reality's over. More confused than ever in a hospital, surrounded by wounded soldiers. So I run for the door in a panic and I worry that I already crossed over. I'm losing my mind like a manic in this nightmare. Please somebody take over. Wake me up, I can't take this now, and I'm finding it and screaming out loud. Wake me up, I can't take this now, and I'm finding it and screaming out loud. Wake me up, I can't take this now, and I'm finding it and screaming out loud. Wake me up, I can't take this now, and I'm finding it and screaming out loud. Wars broke, the enemies on the rooftops aiming with the focus of a cyber scope. Laying down in the man fields, I feel there's no hope, man, I might just choke. But they're gonna carry on through the Hell's Gate, try stay sane and the mind is broke. Take it back to the beginning of the point source, like a Jedi in the desert with a light force. To the moment that it all went sideways, and it kicked up big time, my Star Wars battle for the cause. The guns are blazing, people taking lives, run for safety, there's nowhere to hide. You can't deny, fight for your life, boom! Then I woke up in a bed from a coma. This a dream and reality's over. More confused than ever in a hospital, surrounded by wounded soldiers. So I run for the door in a panic and I worry that I already crossed over. I'm losing my mind like a manic in this nightmare. Please somebody take over. Wake me up, I can't take this now, and I'm finding it and screaming out loud. Wake me up, I can't take this now, and I'm finding it and screaming out loud. Wake me up, I can't take this now, and I'm finding it and screaming out loud.
HEC avec ton ciboulot en pâte à modeler. Elle a moulé tes idéaux les plus adroits dans une petite boîte vite fait bien fait. Faut être révérencieux quand passe le grand monsieur. Faut être révérencieux. Avec ta culture la plus plate, tu t'en iras te faire mousser, t'envoyer en bulle, t'éclater plus haut que ton cul pété. À ça pour ça tu nous épates. Et comment tu fais pour que tous les contis de l'être viennent à tes pieds se prosterner? Qui parle d'intelligence, d'ouverture. toi qui parles de tolérance, de grandeur d'âme et de bonté, mais qui crache sur l'indigence dans ta BMW. À toi l'homme mûr qui pense que mes discours d'intégrité ne sont que des restes d'adolescence, des résidus qui vont passer, que ta merveilleuse existence doit forcément me faire rêver. Hey, ton... Se montrer souliers cirés avec ta tronche à claque, tu claques tout sur ton passage assuré, tes allures, tes postures de con complexe et de supériorité vont être révérencieux quand passe le grand monsieur. De l'open space qui tient tous ses sujets en laisse, tes dévoués subordonnés qui aiment à te lécher les pieds avec ton écho de potriche qu'on fait de vite telle une criche et que l'on vient congratuler en pensant va te faire enculer. Consiste à paraître, à briller par le poids de ta suffisance, voir les autres sous toi s'écraser, à toi et ta toute puissance, à ta vie plate à en crever. À toi l'homme mûr qui pense que mes discours d'intégrité ne sont que des restes d'adolescence, des résidus qui vont passer, que ta merveilleuse existence doit forcément me faire rêver. Hey, ton... Accessoires de mode achetés sous le régime de la communauté. Parfois je pense à tes mioches qui toute ta vie te feront les poches pour trouver un peu au rabais de l'amour dans ton porte-monnaie. Parfois je pense à ta maîtresse que tu troques ta nuit d'ivresse. Parfois je pense à ta mère que t'as pas vue depuis que ton père est décédé et t'as légué la vieille peau dont faut s'occuper. Parfois je pense à ta fratrie si soudée et aimante unie lorsqu'il s'agit de se partager la pension de fioc de la mémé. Parfois je pense à tes amis les plus beaux que tu invites le samedi, décorés de leur présence, ta noble demeure en Provence. Conseil à la con sur la vie, moi.